Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 5 juillet, nous allons faire un nouveau tour du monde en revenant sur 7 jours d'événements avec la rédaction sans parler foot cette semaine, c'est un parti pris. Nous en reparlerons samedi prochain avant la finale de la Coupe du Monde. Rendez-vous après le flash avec l'actualité africaine et vos messages. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr, tout comme vous pouvez podcaster le magazine Idée. Idée qui mettra demain Michel Foucault à l'honneur dans un numéro qui est consacré à son œuvre. Demain dimanche, 17h10 et 18h10 pour le continent africain en heure de Paris. Mais pour le moment, c'est une semaine d'actualité. Si vous êtes un auditeur fidèle de ce magazine, vous connaissez notre invité. Il s'appelle Sedi Kaba, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique. Bonjour Sédic.
Bonjour Pierre-Édouard.
Comment ça va?
Bonjour à tous. Ça va, tout va bien.
Alors, quel est selon vous l'événement marquant de cette semaine?
Mais je pense
toujours difficile.
C'est toujours difficile de choisir un événement. Il y a toujours une dose de subjectivité. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est en lien avec la Coupe du Monde, sans être dans la Coupe du Monde, c'est cette décision de la municipalité de Nice d'interdire les drapeaux étrangers, parce que la décision me paraît surprenante à plusieurs égards. La Coupe du Monde est un événement planétaire. La France est un pays qui accueille beaucoup de nationalités. J'ai trouvé quand même la démarche un peu maladroite de vouloir interdire le drapeau. Et heureusement
surtout
que
le drapeau algérien.
Il n'y a pas que les Algériens. J'ai vu, par exemple, toutes les autres nations qui concourent à cette Coupe du Monde, les personnes d'origine qui sont originaires de ces pays affichent le drapeau. À mon avis, c'est pas tant la présentation des drapeaux qui a déploré, mais c'est les incidents qui entourent souvent les victoires. On ne peut pas brûler des voitures, on ne peut pas faire poser des actes graves dans le cadre de la célébration de la victoire d'un pays.
D'ailleurs, cette décision a été jugée illégale par la justice administrative. Une semaine d'actualité. Merci de votre fidélité. D'abord, un témoignage, c'est dit. Nous parlerons tout à l'heure de la conférence d'Accra sur la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais écoutez tout de suite le témoignage d'un médecin rescapé. Il a été interrogé mercredi par Mokhtarba.
Lorsqu'on m'a dit que j'avais cette maladie Ebola, la première des choses qui est venue en idée, est-ce que je vais mourir? Mais avec le traitement, je voyais chaque jour, je m'améliorais. Lorsque j'ai vu les médecins m'apporter leur soutien, me reconforter, vraiment, j'avais mis en tête que ça va aller. Et j'ai continué le traitement, je m'améliorais, j'ai commencé à manger. Et également, les malades qui étaient fatigués, qui vomissaient, qui faisaient la diarrhée, recevaient les sérums de réhydratation et également d'autres médicaments par la voie parentérale, qui les permettait au moins de résister contre la maladie. Je vous avoue que vraiment, nous n'était la venue de Médecins Sans Frontières et de l'OMS. Je dirais à qui veut l'entendre, on allait compter les cadavres avec l'ordinateur. Ce n'était pas avec une calculatrice ou avec les doigts. Parce que l'ampleur allait être, parce que si seulement il fallait laisser ce cas-là à la Guinée, vraiment ça allait être autre chose.
Autre grand titre de l'actualité internationale, Sedi Kaba, l'annonce dimanche par l'État islamique en Irak et au Levant de la création d'un califat sur les territoires que le mouvement djihadiste contrôle, c'est-à-dire en Syrie et en Irak. À Bagdad ce jour-là, Daniel Valo.
Avec cette proclamation, l'État islamique en Irak et au Levant tente de concrétiser sur le plan institutionnel son projet idéologique, à savoir l'instauration d'un État conforme aux principes de la charia et surtout remettant en cause les frontières issues de l'effondrement de l'Empire ottoman. Cette proclamation vient couronner les succès militaires remportés de manière foudroyante il y a 2 semaines en Irak. Aux positions acquises en Syrie à la faveur de la rébellion anti-Al-Assad sont venues s'ajouter la ville de Mossoul, deuxième ville irakienne, et d'importants territoires dans l'ouest et le nord-ouest de l'Irak. Et puis cette proclamation s'adresse, et c'est là sans doute le plus important, à l'ensemble de la nébuleuse djihadiste. Il est du devoir de tous les musulmans de prêter allégeance au calife et de le soutenir, affirme ainsi le communiqué. Autrement dit, l'EIL, fort de ses succès militaires, demande aux autres groupes djihadistes, à commencer par Al-Qaïda, de se soumettre à son autorité. C'est très important du côté syrien de la frontière, car en Syrie, les combattants de l'EIL sont toujours en butte à l'hostilité d'une partie de la frange djihadiste, en particulier du front Al-Nosra.
On retrouvera tout à l'heure Daniel Valo, notre envoyé spécial en Irak.
7 jours dans le monde.
Avant de vous retrouver, Sédi Kaba, partons pour Hong Kong, où mardi, comme chaque année, des militants de la démocratie ont manifesté, vous les entendez. Ils le font depuis la rétrocession à la Chine, le 1er juillet 1997. Cette fois, les manifestants réclamaient le droit d'élire directement leurs dirigeants. Reportage de notre correspondante Florence de Changy.
Première victoire pour les organisateurs de cette marche annuelle. Le record de l'année 2003 de 1,5 million de participants a été battu. Les manifestations de 2003 et 2004 avaient abouti à la démission du chef de l'exécutif, Tung Chee-hwan, en mars 2005. Selon les organisateurs de la marche de mardi, ce sont 510 000 personnes qui ont cette année continué de réclamer la démocratie. Le défilé, qui s'étendait sur plus de 4 km de long, ne s'est terminé qu'au milieu de la nuit, sans le moindre désordre. Pour la première fois, la marche a été suivie d'un second événement organisé par deux mouvements étudiants qui ont lancé un sit-in nocturne en plein quartier d'affaires de Hong Kong. Première opération de désobéissance civile perçue comme une répétition de ce que pourrait être le mouvement Occupy Central au cas où les propositions de réforme démocratique du gouvernement ne soient pas satisfaisantes. La nuit a été rythmée par des chants et des discours. La plupart des participants au sit-in ont suivi la stratégie de résistance passive recommandée par les dirigeants du mouvement. L'opération s'est terminée au petit matin par quelques 500 arrestations, mais sans heurts violents avec la police. C'est la seconde victoire de cette très longue journée de protestation pour la démocratie à Hong Kong.
Une semaine d'actualité donc en compagnie de Sédic Abba. Alors il faut que je précise que vous avez écrit un certain nombre de livres dont on a toujours parlé dans l'émission d'ailleurs. Sédic, Rébellion Touareg au Niger, Qui a tué le rebelle Manu Dayak, Le Niger face au sida, Atouts et faiblesses de la stratégie nationale contre la pandémie, La presse au Niger, État des lieux et perspectives, et Niger, ça c'est le plus récent, La junte militaire et ses 10 affaires secrètes 2010-2011. Tous ces livres ont été publiés chez L'Armatan. Vous travaillez sur un autre livre d'ailleurs.
Absolument, sais, oui, tout à fait.
Vous reviendrez en parler, c'est toujours un plaisir pour nous. Vous avez entendu ces différents reportages. On parlera tout à l'heure d'Ebola, de cette conférence d'Accra qui s'est tenue cette semaine avec l'OMS. Ce projet de califat de l'armée du Levant, vous
inquiète? Je pense que c'est une menace pour l'ensemble de la sous-région et au-delà, c'est une menace planétaire. À partir du moment où ces mouvements dont la seule philosophie, la seule idéologie, c'est d'imposer le djihad, d'empêcher qu'il ait que la liberté d'expression, d'empêcher que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, arrivent à avoir un État. Leur ambition, c'est d'étendre au-delà de l'enclave qu'ils vont créer à l'intérieur de l'Irak, c'est de l'étendre à d'autres parties de la sous-région et plus tard à d'autres parties du monde, sans compter que ça va devenir une sorte de base arrière d'où les djihadistes pourraient être formés pour aller à la fois au Nigeria, en Syrie ou dans d'autres régions du monde. À mon avis, c'est une menace planétaire et je n'ai pas le sentiment que la communauté internationale a pris conscience de la menace puisque pour l'instant, on laisse les autorités de Bagdad seules se débrouiller et ce qui, de mon point de vue, n'est pas suffisant.
Alors, une tentative de rapprochement entre l'Iran et les États-Unis face à cela, il y a quand même des mouvements, mais pour l'instant, rien ne se passe. C'est dire que George Bush, en 2003, voulait instaurer de force la démocratie.
Absolument. C'est toujours difficile lorsque on pense que la démocratie est un prêt-à-porter qu'on doit amener de l'extérieur sans avoir créé les conditions à l'intérieur pour que ça prenne. De mon point de vue, de façon générale, les leçons qu'on peut tirer, c'est que l'expérience démocratique doit être appréciée selon les pays. Les pays doivent aller à leur rythme. Ça ne légitime pas les dictatures, ça ne justifie pas les violations des droits de l'homme. Mais il faut accompagner les pays pour qu'ils aillent à leur rythme. Sinon, ça devient contre-productif. On se retrouve dans cette situation de l'Irak où, en plus de l'État islamique, il y a la menace de la partition du Kurdistan puisque le président de la région autonome du Kurdistan veut faire un référendum pour se quitter. Donc, on assiste aujourd'hui à une sorte de désintégration de l'État irakien et certains en sont arrivés aujourd'hui à regretter Saddam Hussein. À mon avis, ça, c'est le plus grand échec. Saddam Hussein était un dictateur. Aujourd'hui, les gens, certains Irakiens disent que de son temps, au moins, il y avait la sécurité et il y avait le minimum nécessaire. Aujourd'hui, l'Irak, comme on sait, est un pays pétrolier, mais qui ne peut même plus profiter de son pétrole parce que les groupes armés ont mis la main sur les ressources pétrolières, l'État central ne contrôle plus rien. Donc c'est une expérience désastreuse.
Il y a un autre chef d'État, en l'occurrence Bachar el-Assad en Syrie, qui se réjouit en quelque sorte de cette situation.
Absolument, absolument. Qui d'ailleurs, ces derniers temps, a pris le dessus au plan militaire.
Oui.
Puisque la rébellion, à force de l'opposition syrienne, à force de son émiettement, à force de ses divisions, n'a pas réussi à se fédérer. Des groupes armés n'ont pas réussi à s'entendre. Du coup, sur le plan militaire, Assad a pris le dessus. Il a organisé une élection présidentielle qu'il a gagné. Donc on est aujourd'hui, lui, il doit se réjouir. Puisque le projet de le renverser n'a pas abouti, il en a profité pour se consolider. Et la seule chose qui est possible aujourd'hui, c'est de trouver une solution politique à la question de la Syrie et une solution politique qui ne peut passer que par des discussions avec Assad. Les pays occidentaux qui, à un moment, disaient que non, rien ne doit se faire avec Assad. Aujourd'hui, je pense qu'on doit reconsidérer leur position.
Et demande de plus de démocratie aussi à Hong Kong. Vous l'avez entendu, comme chaque année, les manifestants réclamaient le droit à plus de démocratie. Et là, en l'occurrence, le droit d'élire directement leurs dirigeants. Parce que les dirigeants d'Hong Kong, le dirigeant d'Hong Kong est choisi par une chambre, un parlement qui est contrôlé par
absolument.
Pékin.
Absolument. Du temps où Hong Kong était colonie britannique encore jusqu'en 97, donc il y avait quand même une tradition démocratique qui est de plus en plus remise en cause, qui est chaque année remise en cause depuis que l'île a été rétrocédée à la Chine. Les inquiétudes des Hongkongais sont légitimes si les choses évoluent. Vous vous souvenez que c'est la seule partie de la Chine où on a célébré l'anniversaire de Tiananmen, parce que il y a encore un espace démocratique à Hong Kong, et c'est cet espace démocratique que les citoyens de cette partie de la Chine veulent consolider, veulent éviter que demain ce soit Pékin qui nomme comme un sous-préfet le dirigeant de Hong Kong, ce qui serait un recul pour ceux qui ont cette expérience démocratique. Parce que aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont nés après 97 qui aspirent à la démocratie, le monde qui voit ce qui se passe à travers le monde et qui ne veulent pas que cet acquis démocratique leur soit arraché.
Une semaine d'actualité.
Et Cédric, nous partons cette fois pour Israël. Après la mort de trois jeunes Israéliens qui a déclenché une vague de violence et l'assassinat cette fois d'un jeune Palestinien à Shwafat, à Jérusalem-Est. Reportage mercredi de notre correspondante Muriel Parado.
Des jeunes Palestiniens accourent en direction d'une ambulance. Ils portent un homme blessé, un journaliste. Les affrontements sont violents entre les Palestiniens qui lancent des pierres et les forces israéliennes qui tirent depuis les toits. La rue ressemble à un champ de bataille. Nous sommes tout près de la maison de Mohamed Aboukader, 17 ans. Le jeune Palestinien est retrouvé mort dans un autre quartier de Jérusalem ce matin. Son oncle témoigne.
J'étais avec mon fils et Mohamed nous a dit « Allons prier à la mosquée ». Mon fils a entendu du bruit dehors, il est sorti et a vu trois hommes avec une voiture. Deux d'entre eux sont sortis et ils ont pris mon neveu. Ils ont démarré la voiture en trombe, ont grillé les feux rouges et l'ont amené en direction d'un autre quartier.
La famille et les habitants de Shwafat sont persuadés que le jeune Palestinien a été enlevé et tué par des colons. Ils affirment que plusieurs tentatives d'enlèvement ont eu lieu ces derniers jours, un acte de vengeance après la mort des trois jeunes Israéliens.
Et ces derniers jours, les médias israéliens ont apporté des précisions sur l'enlèvement de ces trois jeunes Israéliens en juin, Nicolas Falaise, mercredi.
Depuis hier, les médias israéliens diffusent cet enregistrement de l'appel téléphonique que les victimes ont tenté de passer à la police dans les minutes qui ont suivi leur kidnapping. On entend l'un des jeunes chuchoter « J'ai été enlevé », puis les cris des ravisseurs ordonnant aux otages de baisser la tête, enfin des coups de feu. Cet appel au secours a suscité une polémique en Israël car la police n'y a pas donné suite et plusieurs heures ont été perdues avant que l'armée ne commence les recherches. Toujours selon les médias israéliens, les services de renseignement estiment que les jeunes ont été tués dès leur enlèvement, une thèse que semble accréditer la présence de douilles dans la voiture qui a servi aux ravisseurs. Reste une question sans réponse pour l'instant. Les auteurs du kidnapping avaient-ils prévu de tuer rapidement les trois jeunes ou s'agit-il d'une prise d'otage qui a mal tourné ? L'État hébreu désigne le Hamas palestinien comme étant l'auteur du kidnapping et du triple meurtre. Les noms et les portraits de deux Palestiniens actuellement en fuite ont été diffusés. Le Hamas paiera, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou, dont le gouvernement évalue toujours la nature et l'ampleur des représailles.
À suivre évidemment dans nos journaux. Repartons en Irak. Le Premier ministre irakien Nouri el-Maliki a décrété une amnistie pour les personnes impliquées dans des actes contre l'État au milieu du chaos qui règne dans le pays. La décision a été prise en outre sur fond de paralysie politique illustrée mardi par la première séance du Parlement censée enclencher le processus de formation d'un gouvernement. Écoutez un des reportages de nos envoyés spéciaux, Daniel Valo et Boris Vichit, consacré celui-ci à la population sunnite de la capitale, Bagdad.
Le quartier sunnite d'Ayy al-Jama est situé à l'ouest de Bagdad. Ici, la plupart des habitants soutiennent la rébellion qui s'est emparée de vastes territoires dans l'ouest et le nord-ouest du pays. Dans ce quartier, on ne parle d'ailleurs pas de rébellion, mais de révolution. Une révolution sunnite face à un gouvernement jugé trop favorable à la population chiite.
Les sunnites sont marginalisés et n'ont aucun droit. Au départ, il y a eu des manifestations pacifiques dans la province d'Al-Anbar. Mais Maliki n'a répondu à aucune de leurs revendications. Alors maintenant, ils font la révolution.
Pour les habitants de ce quartier, la rébellion est composée avant tout de tribus sunnites et d'anciens soldats de Saddam Hussein. Et les combattants de Daesh, l'ex-État islamique en Irak et au Levant, ne sont à leurs yeux qu'une partie infime de cette rébellion.
Ils ne représentent que 5% des rebelles sunnites. Ils veulent infiltrer la révolution et profiter de la situation, mais c'est une organisation terroriste. Ils ne viennent pas à notre secours, ils ne sont là que pour leur propre intérêt.
Depuis le 9 juin et la chute de Mossoul, les sunnites de Bagdad sont partagés entre le sentiment d'une revanche à prendre sur le pouvoir chiite incarné par Nouri al-Maliki et la crainte d'un groupe terroriste qui affirme agir en leur nom.
Sept jours dans le monde.
Et toute la richesse de RFI avec reportage à Bagdad, reportage en Israël avec notre correspondante Muriel Parindon. Un mot sur cette situation tendue en Israël.
C'est pas pour rien qu'on vous appelle la radio du monde. Je pense que ça résume bien le mot radio du monde. Ce qui est déplorable dans cette escalade de la violence en Israël, c'est qu'elle intervient dans un contexte un peu où l'espoir a commencé à naître avec la médiation de John Kerry. On pensait que les choses allaient évoluer. Et là, on franchit un pas, on franchit une situation où ce n'est plus même entre l'armée israélienne et quand les colons, par exemple, auxquels on prête la responsabilité d'avoir à lever ce jeune Palestinien s'y mêle. Oui. C'est que ça élargit un peu le cercle de la violence et on va rentrer dans une situation qui ne peut être maîtrisée et ça ne peut être que regrettable. Mais ça conforte en même temps la nécessité et l'urgence d'une solution politique au problème entre Israël et la Palestine. Il faut sans doute aller vers deux États avec des frontières et une sécurité. Pour l'instant, on n'en voit pas l'ombre.
Et comment faire sortir cette haine de la région? Parce qu'il s'agit de cela aujourd'hui.
Absolument. Non, il s'agit de cela, il s'agit de haine. Je pense qu'il faut convaincre Israël et les Palestiniens qu'il n'y a pas d'autre solution que la solution pacifique, que la solution politique. Parce que Israël a beau avoir la puissance militaire, la puissance de feu, on a vu que les Palestiniens sont capables de tirer des roquettes, sont capables d'enlever des citoyens israéliens, sont capables, d'autres groupes peuvent même commettre des attentats à l'intérieur d'Israël. Donc, comme dit l'adage, on ne peut pas s'asseoir sur une baïonnette. C'est pour cette raison, on a beau être fort, mais on ne peut pas s'asseoir sur une baïonnette. C'est pour cette raison qu'il faut absolument que Israël et les Palestiniens acceptent de se mettre autour d'une table pour trouver un compromis politique.
Sadiq Abba, nous allons marquer une pause afin d'écouter quelques informations de ces dernières heures. Il sera sans doute aussi question d'Israël et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.